Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Germaine, bonjour.
Bonjour Yves.
La semaine dernière, nous avions abordé un petit panorama sur les années 60 à 80. On pourrait peut-être continuer à partir des années 80 et de parler un peu de l'évolution de ce qui est devenu le Diwa par rapport déjà aux premiers néo-arrivants au début des années 70 qui commençaient à amener un nouveau regard sur la manière de cultiver la terre, par exemple, et puis aussi d'ouvrir un peu le territoire au tourisme.
Oui, vous savez, je suis un peu... je suis limitée là-dessus, parce que... En tout cas, pour moi, ce qui a eu de remarquable qui était sorti de l'expérience dans le domaine agricole, c'est ce que Ton Vink a amené auprès des agriculteurs, déjà dans la vallée de Quin. C'était la sauge sclarée. Sur Quin, mais aussi de partout où il y avait des prés, il y a eu des expérimentations à Verchenis, à Ponté, des prés entiers de sauge sclarée. Et parallèlement à ça, a commencé les récoltes, les mises en sachets et la vente. Ça s'appelait... C'était l'origine de l'herbier du Diwa, mais ça avait un autre nom, je ne me rappelle plus. Et donc, ça se passait à Verchenis, je crois. Un paysan avait donné son hangar, et ils y sont toujours d'ailleurs. Voilà, alors c'était la sauge clarée dans les grandes surfaces. Et puis ensuite, ça s'est mis... Il y a une jeune femme à Bachère, qui est venue et qui, elle, a planté le calendula, le souci. Déjà, alors c'est spectaculaire, les champs sont magnifiques, cette couleur orangée qui est si généreuse et qui va bien avec le vert. Et voilà, et donc on a commencé à entendre bio, entendre plantes aromatiques, le thym, la lavande. Quand tu es arrivé, Tchernobyl. Et alors là, ça a porté un coup fatal au thym sauvage. Surtout le thym, paraît-il, et les champignons retenaient les particules radioactives.
De qui a émané l'injonction d'arrêter cette culture ou cette cueillette?
Nous avions un service agricole important ici, une école même. Et j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment renseignés et formés par les formations officielles. Et ils ont été très... Ils n'ont pas donné d'ordre, mais les gens n'ont pas écouté les services agricoles. Parce que, comme vous savez très bien, que le nuage s'est arrêté à la frontière. Voilà. Mais les gens d'ici ont tenu compte. Bon, le thym, c'est pas l'alimentation quotidienne. Mais les champignons, oulala, ça a été dur. D'ailleurs, depuis, il n'y a plus vraiment des champignons comme c'était important, les champignons ici. Il y avait les petits gris, il y avait les chanterelles, tout ça. Et puis la saison des... Bon, je ne me souviens pas.
Il y a quoi, les morilles?
Les morilles. Ça alors, c'est le roi des champignons. Eh bien, ça passait. Moi, j'ai un fils qui allait aux champignons, il n'y en a plus. Enfin, c'est comme ça, il faut... Oui, donc...
Donc on a
au point de vue, au point de vue agricole, de grands changements, ça a été la cave coopérative qui a acheté toujours, qui a étendu un peu son territoire de clairette de Die, d'appellation, et ça a pris un essor. Ils se sont Les bâtiments se sont agrandis et puis il y avait un grand débouché pour le chemin de fer. Pour la... Ça a donné de l'impulsion, ça a enrichi la ville de Die. Ça a enrichi le bâtiment, automatiquement tout est solidaire. Le bâtiment, très beau, très belle villa, des quartiers comme la Chargière. Et puis la Chargière, où il y a des villas cossues. Voilà, c'est ce dont je me suis souvenu, je me souviens actuellement. De toute façon, les petits commerçants de Die qui étaient nombreux, et les petits artisans pareil, c'était une époque prospère. Un peu comme toute la France d'ailleurs. Il y avait vraiment... Jamais on n'aurait pensé qu'il y aurait une récession. Et voilà, il faisait bon vivre à Die. Là, l'hôpital était en plein essor avec deux chirurgiens, trois chirurgiens, deux chirurgiens titulaires et puis des internes en capacité vraiment. Et puis des sages-femmes, la maternité. C'était une époque où Die était heureuse. Les classes, les écoles, le lycée, c'était incroyable, incroyable. Et tout ça dans un esprit de tolérance, comme la tradition protestante, tolérance et contact respectueux et facile.
Il y a l'élevage qui a amené petit à petit aussi cette fête de la transhumance.
Ah, la transhumance, oui. Il faut dire que sur les hauteurs, du côté de au-dessus de la Roanne, tout ça, ce sont des montagnes arides, et il y avait le troupeau. Et je me souviens que le conseiller général à l'époque, Jean-Pierre Rambeau, qui a été renouvelé pendant trois sessions, auprès du Conseil général, a beaucoup défendu les intérêts des éleveurs de moutons. Si bien que, auprès de l'Europe, leur situation des éleveurs s'est élevée, s'est améliorée. Voilà, donc c'est là que M. Pitt, qui venait de Suisse, est venu à trouver qu'il y avait... Parce qu'il y avait, chaque année, on savait, dans le quartier, à Die, en ville, tout ça, les moutons, les belles, et c'était les gosses, ça les mettait dans une joie, un événement vivant, etc. Donc les troupeaux arrivaient de la gare de Die, des fois, en train. Et non, mais j'ai vu la première que j'ai vue en 64. Elle venait du col de la Chaudière, à pied, par la route de la Drôme rive gauche, là où c'était possible, depuis Vercheny, par la route d'Aurel, la route de Barsac, à Ponté, mais il n'y avait pas la grosse circulation, à part les camions de bois qui... Voilà. Et donc, quand ça arrivait, ça a nuité à Chabestan, au boulevard du Ballon. Alors, les gosses, les familles allaient... parce que c'est un spectacle, et c'est une atmosphère odorante, je dirais. Et alors, il y avait les mères, les petits agneaux, tout ça. C'était une leçon de choses incroyable. Et ensuite, de bon matin, on entendait, moi j'habitais place du Mazel, alors la rue d'Armellerie, je ne vous dis pas, il passait de Chabestan, il montait par derrière l'église, je ne sais plus, et puis ça atterrissait sur la route de Romeyer. Et là, toute la route de Romeyer était tapissée de misons, car les déchets du mouton, ça s'appelle le mison. C'est un fumier recherché pour certaines cultures. Et donc, de là, il passait, il montait jusqu'aux granges, jusqu'aux... Enfin, moi, je ne connais pas les noms, mais je sais que c'était un événement, comment dire... Il y avait aussi cette notion de tradition. Et les gens de Romeyer, je me rappelle d'un vieux garçon merveilleux qui s'appelait Monsieur Bell, c'est-à-dire le Bell, c'est le... en provençal, le Bell, c'est le B-A-Y, c'est le maître du troupeau, le Bell. Mais lui, je crois que ça s'écrivait, je ne sais plus, B-E-2-L-E, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était la fête chez soi. Et des relations. Un jour, j'ai trouvé une lettre dans un livre, dans un très beau français. C'était un Provençal qui recevait une lettre d'un monsieur de Bennevise qui avertissait le maître du troupeau qu'il avait, qu'au passage du troupeau, un chien s'était perdu et cette ferme l'avait recueilli. Et donc, il avertissait le bel je ne sais plus comment ça s'appelle là-bas en Provence, là-bas, la Croix, qu'il avait ce chien à la disposition. Mais c'était une magnifique écriture. J'ai donné cette lettre à Séverine Baumier, qui était l'écrivain, Madame Baumier. C'est elle qui a écrit Dubuis. À la lavande, vous savez, ce livre si bien écrit. Voilà, le mouton, évidemment. Alors, par la suite, oui, donc, Monsieur Pitt a eu l'excellente idée d'organiser l'arrivée des troupeaux et d'inviter des pays. C'est ça qui est génial, c'est d'inviter. Et la dernière fois que j'ai pu assister, je venais de perdre mon mari, c'était en 2003, et a été invité Idir, le fameux chanteur Idir. Et ça, c'était vraiment très, très proche de l'authenticité de cette fête, c'est-à-dire un homme qui chante dans la tradition du troupeau, des joueurs de flûte, de la raïta en Algérie. Et donc, voilà. Et comme dans la vie, tout passe. Mais dans la mémoire de gens en Provence, beaucoup, et un peu partout, des Lyonnais, des Grenoblois, dit, c'est la transhumance. Ils se souviennent d'être venus un dimanche. Ça se déroulait sur 2 ou 3 jours. C'était une réussite. De même qu'un pied à l'est, un pied à l'ouest. Ça, c'est prodigieux. Une petite ville, comme dit, qui se permet d'inviter Moscou 2 fois. Avec le folklore, avec l'agriculture. Je me rappelle la Hongrie. Qu'est-ce qu'on a bu du toquet? Et puis, souvent la bière a arrosé le tiwa. Même une fois, j'avais l'impression que je buvais de l'eau. Mais aïe, 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 après, pour rentrer à la maison, je suis rentrée en chantant. Et j'ai cru que j'étais devenue une chanteuse. C'était 2h du matin.
Vous parliez de tradition tout à l'heure par rapport à la transhumance. Ça veut dire que vous avez toujours connu ce passage des moutons dans la ville. Mais à partir de quel moment c'est devenu un aspect touristique ?
C'est devenu à partir du moment où M. Pitt, je ne sais pas combien d'années il a mis pour... mais très vite, il avait des débouchés, il avait des moyens qu'on ne connaissait pas, a dit. Parce que Tom Vink était très discret sur ses moyens. Puis c'était un autre domaine, c'était l'Europe de l'Est. Et Pitt était quelqu'un de convivial, pour un Suisse, chapeau, hein. charmant monsieur. Et très vite, c'est devenu les rures. Mais alors, c'était phénoménal, phénoménal. Mais ça n'a pas... les Diwas ont accueilli ça avec joie, une joie enfantine, le cœur ouvert, vous savez. C'était
bon enfant.
Bon enfant, et même plus que bon enfant. C'était la culture, vous comprenez ? C'est pas Disneyland, hein. C'était vraiment ce que ce pays a toujours fait. Et là, le côté festif. Voilà.
Tout à l'heure, vous parliez à un moment donné de croiser des camions chargés de bois. Ce bois, c'était d'où ?
Si vous aviez vu, ces camions très longs, parce que les fûts, on ne les coupait pas, ils les coupaient dans les montagnes. C'était les Italiens, les Siniscalchi en particulier, et puis Donato, on disait Donato, mais c'était son prénom, Donato. Enfin bon, et donc il y avait... le pont, il y avait un pont, il y est toujours d'ailleurs, en sortant de Die, après le boulevard du Ballon, alors les camions venaient de la vallée de la Roanne, alors c'était des camions interminables, et une fois il y en a un qui a tourné là où maintenant il y a le parking de Méros, il y a presque un angle droit, il y a une vieille tour qui a été restaurée, qui soutient l'évêché. Et le camion ils ont refait la route, mais ils n'ont pas fait l'inclinaison de la chaussée, si bien que le camion qui venait du boulevard de Vallon a mal pris le tournant et s'est renversé. Là, il était chargé de moutons. Et alors, là, le jardin Bégout, puisque c'était le jardin Bégout à l'époque, a été envahi par des moutons blessés, ça a été une cata. Et puis une autre fois, un camion qui partait en... Les premiers partaient en Italie, exploités en Italie, je ne sais pas où venaient de... J'en sais rien. Les premiers, attendez, ils descendaient de la montagne pour aller à Tarascon, parce qu'il y a une papeterie à Tarascon. Voilà. Et une fois aussi, alors, un angle droit là, et puis alors... Le vieux pont à Ponté, vous vous rendez compte, le vieux pont à Ponté, pour ces camions. Alors ça mettait une demi-journée pour se dégager. Et puis alors, encore une difficulté, à Saillant, l'angle droit de l'église Saint-Géraud. Ah oui. La sortie du tunnel. Enfin bon, c'était folklorique, quoi.
Oui, parce que c'était les routes de l'époque.
Mais oui, c'est vous dire que le cul-de-sac de Die, en quelque sorte, n'a pas été bien soigné, entre guillemets, par les pouvoirs en place, le Conseil général de la Drôme. Il a fallu des gens, ça a commencé par un conseiller général, Mouton, Monsieur Mouton, le bien nommé, qui a commencé à lâcher des crédits, qui a eu pitié de... Et puis ensuite, il y a eu M. Guillaume, excellent président du Conseil général de la Drôme, qui a beaucoup aidé le tourisme, l'accueil des gîtes, ce qui a été un apport financier important dans les trois cantons. C'était important, vraiment. Et ça fait que le Diwa a pris un visage nouveau. Tout le monde a pris le mouvement en avant et qui y a cru et puis qui a collaboré. Voilà, et puis on en arrive là. On en arrive à l'effondrement. Hier, j'ai été à la conférence de Monsieur Servigne. Oui. Donc, qui a dit brièvement, mais en fait ça a duré un moment, il a dit je serai bref, et donc il explique que, voilà, effondrement des finances, du monde capitaliste, et effondrement en cascade de nous tous. Et voilà, l'espoir c'est comme il a dit, les mauvaises herbes. Nous sommes les mauvaises herbes. Nous sommes les mauvaises herbes, ceux qui se mettent à faire la culture, la permaculture, ceux qui ont des petites actions de collaboration, d'organisation en commun, pour faire des économies d'énergie, pour construire différemment. Et etc. C'est plein d'espoir.
Je reviens aux années 80. Vous parliez de l'époque où il y avait énormément de commerce. Ça dit, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme commerce à l'époque?
Ben on trouvait le nougat de. Oh là là, je suis un peu émue et les noms propres me manquent. Oui, il y avait mon mari aimait beaucoup le nougat, mais il disait le nougat de Montélimar, c'est la grosse cavalerie, c'est rien ça. C'est le nougat de Die. Donc, il y est toujours le magasin. Zut, c'est Achard et Verdurant. Voilà. C'était le nougat Verdurant. Mademoiselle Verdurant a épousé Monsieur Achard. La petite fille, arrière-petite fille, de temps en temps, au moment de Noël, elle participe, voilà la tradition provençale aussi, aux fameux 12 desserts de la tradition de Noël. Les douze desserts dans lequel il y a la production du Diwa, c'est-à-dire l'amande et le miel. Voilà, la recette, c'est ça. Parfumé à la lavande, évidemment.
Alors ça, c'est les confiseries. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans le vêtement? Est-ce qu'il y avait des tailleurs?
Non, je ne sais pas. Il y avait des couturières, oui. Oui, ça. Il y avait des couturières. Mais déjà, avec la vulgarisation de... Il y avait à Die un garage Peugeot. Et je me souviens, c'était des cousins à moi qui venaient d'Algérie, Monsieur René Farenc et Madame, qui était ma cousine germaine, ont transformé le garage Peugeot en concession. Ils avaient un certain nombre de véhicules à vendre tous les mois. Et je me souviens qu'à une époque, ils en arrivaient, parce que parallèlement, la cave coopérative de Die et l'usine pour aliments étaient en pleine expansion. Il y avait les élevages de porcs, les élevages de, surtout des élevages de volailles. C'était, oui, ils avaient lancé... Le service agricole avait lancé les poulaillers d'une firme qui s'appelait Coquin. Voilà. Donc, il y avait des grands poulaillers avec des poules de ponte. Et il y avait toute l'organisation d'alimentation et tout ça de ces poulaillers. Et il y avait sur Die un bâtiment très grand qui a été construit à la sortie du côté droit. où il y a maintenant Philibert. Alors ça, c'était un bâtiment qu'on a, où arrivaient les œufs des poulaillers et où c'était trié, calibré et empaqueté et expédié dans les supermarchés qui démarraient à l'époque, les mammouths, les machins.
À quel moment est arrivé le supermarché, a dit ?
Là, j'ai le bec dans l'eau, c'est le cas de le dire, parce que je ne suis pas cliente du supermarché, d'aucune grande surface.
Mais à l'époque de ces naissances de type de commerce...
Ça a été prodigieux, prodigieux. Le supermarché, c'était égal facilité, modernisme. Et là, il y a eu un bond en avant des femmes en particulier. Parce que ça, il y a eu une période où, en plein centre de Die, un commerçant crétois a monté une petite supérette qui s'appelait Mini Rhône, la place Jules Plan. Et donc ça, ça a été une révélation pour, il faut dire la vérité, que pour les femmes, les mères de famille, en dehors d'aller chercher les gosses à l'école, les femmes s'ennuyaient. Il n'y avait rien de culturel, il n'y avait pas la médiathèque encore, voyez. Et aller au cinéma, c'était pas l'époque où la femme allait au cinéma seule ou avec des copines, ça ne se faisait pas. Donc le magasin, c'est le côté consommatrice, de la manière dont c'était le supermarché. Les gens avaient l'habitude d'un comptoir, la marchande d'un côté, l'acheteur de l'autre.
Mais il occupait quel espace d'aujourd'hui ?
Alors, Mini-Ron, c'était le côté où il y a maintenant l'espace couvert dédié à Baudard. Voilà. Ça paraît petit, alors que quand on rentrait dans cette nouvelle supérette. Et ensuite, il y a eu les COP. Voilà. Ici, il y a un fonds socialiste et il y a eu les COP en face de l'église. Premier magasin COP, le vrai coopérateur, avec le journal... dédié aux enfants, tout ça, c'était très sympa, très sympa. Et puis ensuite, le COP s'est déplacé, mais ça a duré 10 ans, 15 ans, s'est déplacé en face du cimetière, c'était la famille Nall, et ensuite ça a été acheté par U, c'est la suite des COP. Mais là, il n'y avait plus rien de coopérateur. Plus rien, c'était la marchandise. Et c'était encore le pouvoir d'achat, ça marchait. Parce qu'il y avait les emplois entre l'hôpital qui embauchait énormément, l'usine Audra marchait, l'usine Barral pourvoyait des emplois pour les femmes, les jeunes femmes. C'était l'école, la cantine. C'était une ville qui fonctionnait, comme beaucoup de petites villes. C'était 4000 habitants ici, avec l'agglomération. Et puis il y a eu la fameuse grille scolaire qui a fait que, tout à coup, des associations, enfin une association en particulier, la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, laïque, et puis l'Union des femmes françaises ont décidé de défendre les villageois dont l'école était menacée parce que la fameuse grille scolaire. Alors c'était des villages comme Bennevise et tout ça. Ensuite, et puis il y avait Marignac aussi qui était menacée. Alors toutes les mères de famille... C'était très nouveau et convivial. On défendait, c'était après le Larzac, mais il nous est resté dans la mémoire, nous voulons vivre et travailler au pays. Volem, Viour, Alpais. Et donc, a dit, on n'était pas tellement dans la phrase, mais on était dans l'action, croyez-moi. Et ça fait venir des gens, d'ailleurs, qui ont trouvé qu'il y avait une dynamique. Et entre autres, il y a, qui est toujours, qui a créé un gîte, la Françoise Périot, Saint-Julien-en-Quin, qui a écrit un livre magnifique sur les néo-cultivateurs qui se sont installés dans la vallée à Vachère, Saint-Julien-en-Quin, et c'est un livre à lire. Il est à Mosaïque, et c'est une femme modeste, mais qui a un grand talent de partager les émotions dans la nature, par la nature.
Qu'est-ce qu'il y avait comme commerce encore sur 10 même dans le centre-ville? Est-ce que chaque peut-être...
Il y avait les vêtements, un couple très dynamique de vêtements. Alors c'était le grand chic, c'était les costumes pour hommes. Tout ça venait de, ben je sais pas d'où. Ça s'appelait chez, c'est là où il y a 10 sous maintenant. Donc, mais ça a commencé dans une grande boutique où il y a au coin de la rue des Barry. Ils y sont plus d'ailleurs. Le fils tenait un petit boutique. Enfin, le fait est que tout le monde, des très belles robes, enfin bon, il était de bon temps de se parer en société, et c'était la qualité vraiment. Et puis, comme commerce, ben, il y avait la laiterie aussi, la laiterie de Cré, qui venait sur Die et qui avait un dépôt au boulevard Félix Germain. Et je vous assure que ça, c'était direct. Le camion venait de Cré avec les yaourts, c'était nouveau dans les coutumes alimentaires. Et il y avait la tome, mais il y avait aussi des gens de Dausson et tout ça qui apportaient la tome à domicile. Moi, j'avais Madame Roux qui venait avec son scooter. Et c'était naturel, c'était des façons de vivre comme ça, direct de la ferme à l'assiette. Et qu'est-ce qu'il y avait comme... Eh bien, vous savez que j'ai occulté tout ça parce que moi, la marchandise, c'est... Je suis pas... J'ai jamais cédé à...
Vous n'étiez pas consommatrice, déjà. C'était un nouveau mode de vie, la consommation.
C'est pas une histoire d'habitude. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience très jeune. En Algérie, on a ouvert un prise unique. J'y suis allée. Et c'était vraiment un monde... c'est vrai que c'était séduisant. Mais... a commencé déjà le chapardage, et surtout des femmes. Et après, j'ai lu des études, femmes frustrées. Et comme la formule était, c'était plus la banque qui sépare, vous savez, le meuble qui sépare le marchand, la marchande du consommateur, eh bien, des gens perturbés, et des femmes en général, ou des enfants, ça s'accaparait, et donc ça faisait des drames familiales. Et ça, moi, je suis sensible, comment dire, c'est ma nature d'être à côté des gens qui souffrent souvent des effets de la société de consommation, voyez. Alors je suis jamais rentrée dans le piège. J'ai acheté ce qui était nécessaire à ma famille, à mes besoins, un point c'est tout. Je ne me suis jamais laissé séduire, parce que c'est tellement vain. Vous savez, on désire fortement quelque chose, et puis ce quelque chose, un beau jour, ne vous convient plus. Et si vous avez fait des sacrifices ou des encoches à l'honnêteté, alors là, non, ça va pas. C'était pas mon genre. Et mon mari, c'était pareil. Le chapardage, ça ne mène qu'à la perte de soi.
Il y a un lieu qui est aussi convivial, hein, dans tout dit, c'est le café. Le café-bar, il s'est toujours maintenu ce nombre ou il y en avait encore plus auparavant?
Il y en avait plus. D'abord, dans chaque village, il y avait un café. Et là, je me souviens de la Saint-Blaise à Saint-Julien-en-Quin, en plein mois de février. C'était quelque chose. Les gens, les paysans, mettaient des pièges pour les grives et puis ils amassaient les grives. Et c'était pour faire les toasts pour la Saint-Blaise. Et c'était encore cette joie de la libération à Saint-Julien-en-Quin. Et je me souviens avoir vu un homme que tout le monde disait... décidément, je suis fâchée avec les noms. Il était originaire de Vercheny. C'était un joyeux luron. Et mon mari m'a expliqué, dans un aparté, « Tu sais, ce monsieur-là, c'est un rescapé de Buchenwald. Il a été raflé, il est allé à Buchenwald, il est un des rares rescapés. » Et cet homme, quand il est revenu, qu'il s'est refait sa santé, il était boulanger, il s'est mis à faire du pain qu'il offrait à tous les gens du village. Il faisait des fêtes qui n'avaient ni aucun saint ni rien du tout. Des fêtes. Il faisait de la crème anglaise et mon mari me disait dans des grandes soupières la crème anglaise, c'est-à-dire du lait, du sucre et du... Et il était heureux. Les gens étaient assis devant leur table, devant leur assiette et lui passait et avec la main, avec le creux de la main, il servait la crème anglaise et il disait avec insistance, mangez, mangez, mangez. C'est vous dire, cet homme, ce qu'il a souffert. Il n'a plus pu. Ça me fait penser à Primo Levi, vous savez. Pendant quelques années, ses anciens compagnons, certains déportés, certains meurtris de la guerre, parce qu'il y a eu les rafles depuis Espenel jusqu'à Die. Et ils allaient sur la tombe le jour de l'anniversaire de sa mort et ils emportaient des litres, comme on dit ici, des litres, et puis ils emportaient de la pogne. Et puis ils étaient déjà bien partis et ils disaient, je ne sais plus comment il s'appelait, Jules, goûte celui-là, il versait un peu sur la tombe. Goûte celui-là. Oh là là, tu sais, ça c'est la vigne du père Untel là-bas derrière. Enfin voilà, c'était la célébration. Ça fait penser à Brassens, le trou. Voilà, et dans chaque village, y compris à Saint-Romand, je crois bien qu'il y avait deux cafés à Saint-Romand. Dans des tout petits villages, c'est un lieu de rencontre. Et on servait la piquette, comme disait Ferra. Il y avait le Cinceau. Ça, c'est je crois que c'est une vigne du Cinceau qui était tellement bon que le gouvernement l'a interdit.
Oui, on l'appelle le vin de Treille également, c'est ça. Ouais.
Et y a des vins qui rendent fous. Hein, c'est... Mais tout abus rend malade aussi.
Je reviens au café, à Die même. Donc là, je crois qu'il y a à peu près 18 établissements hein, sur l'ensemble de la ville, en mettant les cafés-restaurants également. Hein. Mm-hmm. C'était à peu près le même nombre où il y en avait encore plus.
Quand je suis venue, le café de Paris avait une grande importance parce que c'est un emplacement magnifique, central. C'était géré par la famille Entresangle et c'était vraiment... un café dans la tradition, avec billard au premier étage et tout ça. C'était des gens, des bourgeois. C'était parce que la ville était quand même assez bourgeoise. Donc, voilà, mais je ne me souviens pas très bien. Moi, je sais que mon mari allait au Café du Commerce à Saint-Marcel parce que monsieur Gabriel, je crois qu'il s'appelait Gabriel ou Élie Gilloin, on l'appelait Lily. Lily Gilloin était un animateur né, quelqu'un qui organisait la fête de Saint-Marcel, et la fête de Saint-Marcel, c'était quelque chose, croyez-moi. Il y a des films, Roger Algout a beaucoup filmé, il y avait Niot aussi, le marchand de télé, qui filmait à l'époque, c'était très rare, des gens qui filmaient, mais ça valait le détour. C'était des imitations du carnaval de Nice ou de... C'était burlesque, mais avec des gens, des commerçants de dit, des habitants, des femmes qui se déguisaient en princesse. Il y avait un thème chaque année. Un thème copié du thème national, si vous voulez, les fameuses majorettes. Voilà, ben je me souviens de Monsieur Vigne, qui était un grand avec des costauds, déguisé en majorette.
Est-ce que dit aussi c'était un centre-ville unifié, ou alors est-ce qu'il y avait ces petits quartiers comme Saint-Marcel ou d'autres, vers la place Saint-Pierre? Est-ce que c'était un autre lieu aussi?
À Saint-Pierre, il y avait deux cafés, les sports et les cars, parce que c'est au bout, il y a la gare. Et donc, il y avait les gens, c'était très habité. La ville de Die, toutes ses ruelles étaient très habitées. Donc, il y avait l'habitude du pastis, l'habitude du vin blanc, tout ça, des habitués. Les femmes, non, jamais. Non, les femmes, non. Et donc, c'était aux quatre coins de Die, Saint-Pierre, Saint-Marcel, la place de la République. Et puis, je ne me souviens pas bien. Le fait est que mon mari, nous allions boire le café tous les jours après le repas au Café du Commerce, où il y avait des animateurs nés comme le Paul Chevillon qui faisait toujours ces éclats, qui étaient vraiment toujours dans le respect. Mais des farces, parce qu'il y avait des simplets, vous savez, qui venaient. Il y avait des simplets qui sortaient des familles. Et donc, Paul avait le chic pour leur faire des farces. Il y avait des habitués du journal qui accaparaient le journal. Et Paul leur enflammait le journal, vous voyez. Voilà. Il y avait un autre monsieur aussi qui était assez plaisantin. C'était... Maurice Béranger, qui était tripier dans la rue de l'Armellerie. C'était des gens vraiment... C'était chouette. C'était une vie populaire, mais jamais dans la vulgarité et dans la méchanceté, la délation, les commérages, non. A dit, c'était pas ça.
Ça l'est plus aujourd'hui ?
Je préfère pas en parler, cher monsieur. Nous sommes dans une période étrange.
Germaine, merci pour cette petite heure de témoignage. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine émission.